Le dimanche passé, nous avions commencé un thème intitulé « La gloire des hommes ou le royaume des cieux ?» La gloire des hommes ou le royaume des cieux ? La gloire des hommes représentait le pouvoir, les richesses, la popularité, la célébrité, les félicitations, la force physique, la beauté, tout ça, nous l'avons appelé la gloire des hommes. C'est tout ce qui fait la force des hommes aujourd'hui, sans Dieu. C'est leur intelligence, c'est leur beauté, leur richesse, leur popularité. Les pouvoirs qu'ils ont, économiques ou politiques, c'est ça la gloire des hommes. Ce thème m'a été inspiré lorsque je regardais les commentaires sur les banquiers. C'est un film documentaire qui expliquait que les banquiers avaient le pouvoir de créer l'argent de rien à travers les emprunts. Ils prêtaient aux gens ce qu'ils n'avaient pas. Et le commentateur disait, ça fait que ces gens-là peuvent créer de l'argent à l'infini. Ils peuvent s'enrichir à l'infini. Et je m'étais dit, mais tiens, mais ils sont forts. S'ils peuvent s'enrichir à l'infini, s'ils peuvent créer de l'argent qui n'existe pas, s'ils peuvent prêter de l'argent qui n'existe pas, après quand on rembourse, ça devient de l'argent qui existe. Ces gens-là réellement ont un pouvoir extraordinaire. Lorsque nous savons que tous les pays du monde sont endettés auprès des banques privées, des banques dirigées par des groupes d'hommes, on se dit, mais ce sont ces groupes d'hommes qui finalement dirigent le monde. Et je me disais, mais quel pouvoir ils ont. C'était pendant la journée. Et le soir, une voix m'a dit, tout ça, c'est la gloire des hommes. Tout ce pouvoir-là, c'est la gloire des hommes. Ça va passer un jour. La beauté physique, un jour, passe. Les richesses, un jour ça passe. Même pour ceux qui meurent milliardaires, pendant qu'ils meurent, il n'est plus riche. Parce qu'il s'en va. Pendant qu'il est fatigué, malade sur le lit d'hôpital, il n'est plus riche. Il est théoriquement riche. Mais du moment qu'il ne jouit plus de cette richesse, il n'est plus riche. C'est comme quelqu'un qui aurait un grand compte bancaire, mais qui serait en prison à perpétuité. Ils ne sont plus riches. C'est pourquoi les vrais satanistes, parce qu'il y a magiciens, méchants, il y a toutes sortes de mauvais dans ce monde. Il y a des mauvais terrestres qui sont mauvais à cause des choses de la terre. Mais un vrai sataniste, Satan lui a promis que même après la mort, en enfer, ça sera la fête. Donc même un vrai sataniste, pour rester avec Satan, a besoin qu'on l'encourage quand même par rapport à après la mort. C'est un raisonnement normal. Tout humain devrait penser à après la mort. Donc ce ne sont que les méchants inconscients qui ne pensent qu'à la terre. Il y a des méchants conscients qui exigent quand même qu'on leur offre une théorie valable qu'après la mort, lorsqu'on sert Satan ici-bas, après la mort, on restera dans une sorte de victoire. Parce que ces banquiers-là, pour eux, c'est eux qui sont dans la victoire sur cette terre. Ces hommes politiques qui dirigent le monde, pour eux, c'est eux qui sont dans la victoire sur cette terre. Les vedettes de cinéma, pour eux, c'est eux qui sont dans la victoire sur cette terre. Alors il y a des petits mauvais de ce genre-là qui ne pensent qu'à la terre. Mais un vrai mauvais va quand même penser à après la mort. C'est pourquoi les vrais satanistes, on leur promet une sorte d'enfer comme une boîte de nuit. Mais bien sûr que c'est faux. L'enfer ne sera pas une boîte de nuit. L'enfer, ce sera un endroit où on brûle, où on souffre. Donc si Satan t'a promis cela, il t'a trompé. C'est Jésus qui promet la nouvelle Jérusalem. Il y aura la gloire de Dieu. Si Satan veut te convaincre, dis-lui, Satan, alors il faut que tu battes Jésus. Il faut que tu battes les gens qui supportent Jésus. Là, je te suivrai. Un jour, l'Éternel achèvera les méchants. Tout ce qui est fort dans ce monde, tout ce qui est de la gloire des hommes, finira un jour. Et nous tous, nous avons un certain âge pour le voir. Où est Mohamed Ali? Où est Michael Jackson? Où est Mike Tyson? Même récemment, on a vu la honte d'un coureur qu'on a surnommé l'éclair. Usain Bolt. Ben, il a eu la honte de sa vie. Lui-même, il a dit, j'ai cherché la puissance dans mes jambes, il n'y avait plus. Voilà. Il s'est fait battre comme un petit. La gloire des hommes, ça passe toujours. Ça passe. Nous avions connu des costauds. Des gens qui dominaient à l'école, qui tapaient tout le monde. Et un jour, quelqu'un est venu qui semblait fluer, il les a frappés. Et c'est la honte. Toi, le costaud, tu te fais taper. Un jour, la gloire des humains passe. Les gens qui étaient physiquement impressionnants, un jour, tout cela passe. Ils commencent à traîner des maladies, des articulations, des maladies, des cœurs, des cancers. Ceux qui ont gagné les courses, nous connaissons la fin. Le Jacques à Anctil, 5 Tours de France. Il a fini comment? Avec un cancer très difficile, très compliqué. On prend des dopages par-ci, par-là, et on fait la une des journaux. Mais la gloire des hommes finit toujours par passer. Il est écrit dans Nombre 32, 23, « Ton péché te retrouvera. La mort met fin à toute forme de gloire. C'est pourquoi les vrais méchants, les vrais satanistes vont auprès de Satan pour lui poser la question, donne-nous, qu'est-ce qui va se passer après notre mort? Intéresse-toi après ta mort, qu'est-ce qui va se passer? On t'a menti sur le fait que tout finissait. Tout ne finit pas, il y a une continuité. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre jugera tous les humains par rapport à ce qu'ils ont fait de leur vie. Parce que la vie que nous avons ne vient pas de nous. C'est quelqu'un qui nous l'a donnée et il nous jugera un jour. Qu'est-ce qu'on a fait de cette vie-là? La gloire des hommes, ça élève 20 ans. Après, ça nous trahit. On a longuement parlé de ça la fois passée. On a dit, il faut chercher le royaume de Dieu. Quand tu cherches le royaume des cieux, tu auras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui est en toi et qui ne te quittera plus. Et éternellement, tu vivras avec cette gloire. Nous lisons Jean 12, où il est question de la gloire des hommes. Jean 12. Au verset 42, il est écrit ceci. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire qui vient de Dieu. Alors quand nous parlions tout à l'heure de la gloire des hommes, certains vont croire qu'on parle que des riches, que des gens qui sont élevés dans la politique, ou des grandes vedettes, du showbiz. Non, la gloire, c'est la gloire de l'homme, c'est ce à quoi il s'appuie pour être fier, pour être orgueilleux. C'est ça sa gloire. Donc quelqu'un peut être pauvre, mais avoir une gloire des hommes. Quelqu'un peut être très pauvre, mais sa cigarette, c'est sa gloire. Il va se faire gifler, il va se faire crier dessus. Lui aussi va répondre méchamment, sachant qu'il va aller un peu après se calmer avec sa cigarette. Sa cigarette est sa force, c'est sa gloire. Donc la gloire des hommes, ce n'est pas seulement être très riche, être très fort, faire des miracles, mais c'est tout ce sur quoi tu t'appuies pour te sentir fort. C'est ça la gloire des hommes. Tout ce de visible sur lequel tu t'appuies, toute logique sur laquelle tu t'appuies pour que tu te sentes bien, tout ce qui est lié aux humains, tout ce qui est produit par les humains, les félicitations, c'est quelque chose que les humains donnent. Et c'est ça sur quoi tu t'appuies pour te sentir bien. Quand les gens te disent « ton travail a été bien fait », c'est là que tu te sens bien. Quand les gens te disent « il y a telle chose à corriger », tu n'es plus bien. Donc tu tires ta gloire des hommes. Il faut que les hommes te félicitent pour que tu te sentes bien. Ça, c'est ça la gloire des hommes. Et ça peut aller loin. Même au milieu des chrétiens, beaucoup préfèrent la gloire des hommes. Donc tout ce qui passe par l'homme pour que toi tu te sentes bien. Les félicitations, le visible. Donc ce que tu vois, ce qui influence tes yeux, et c'est ça qui te donne la force, mais ça c'est la gloire des hommes. Parce que ça passe par tes yeux. La gloire de Dieu passe par la foi et sa parole. Tout ce qui passe par les yeux, tout ce qui passe par ta logique, c'est la gloire des hommes. Tout ce sur quoi tu t'appuies, c'est la gloire des hommes. Et il y a une remarque dont on n'a pas parlé le dimanche passé, c'est que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se plaignent en disant « mais nous ne vivons pas la gloire de Dieu, nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Si on avait vu telle chose, on aurait vraiment cru que Dieu est puissant, on se serait senti en forme. » Bien-aimé, là, qui a dit la phrase qu'on vient de lire? C'est Jésus, hein? C'est l'apôtre Jean qui était à côté de Jésus. Il dit clairement, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Vous savez, beaucoup de gens prétendent que si Dieu leur fait telle chose, Dieu leur fait telle autre chose, ils vont plus s'attacher à Dieu qu'au péché ou aux hommes. Ce texte nous renseigne sur une chose. La plupart des hommes préfèrent la gloire des hommes. Ce texte nous le dit. On se trompe en disant, mais si moi j'avais pu voir Jésus comme l'autre, je l'aurais aimé beaucoup. Mais les gens là qui viennent de préférer la gloire des hommes, n'avaient-ils pas vu Jésus? Ils l'ont vu. N'ont-ils pas cru qu'il était fils de Dieu? Ils l'ont cru. Mais ils ont quand même préféré la gloire des hommes. C'est ça la réalité cruelle. J'appelle ça la réalité cruelle. Aujourd'hui, les gens disent, mais nous ne voyons rien. Mais les gens de l'époque disaient aussi, nous ne voyons rien. Pourtant, Jésus était là. Pourtant, les miracles étaient là. On pense que si on était à leur époque, nous, on se serait attaché plus à Jésus. C'est faux. Parce que le même Jésus est en train d'agir. Tu ne vois toujours pas. Parce que tu as ta façon de voir. À l'époque, quand Jésus était venu, il était venu, il n'était pas beau, et il n'était pas extraordinairement beau. Il était simple, il marchait à pied. Malgré ses miracles, malgré son autorité dans la parole, les gens disaient encore, fais-nous encore un miracle. Ce n'était pas suffisant. Malgré tout ce qu'il avait fait, ce n'est pas moi qui dis, on vient de lire. Ils ont préféré la gloire des hommes. C'est écrit. Ne crois pas que si tu ne crois pas à la parole et que Dieu fasse des miracles, tu vas plus t'attacher à Dieu. Tu te trompes. Le Seigneur a dit, le juste vivra par la foi. Tu as beau t'imaginer que telle chose, quand Dieu le fera, c'est là qu'on se sentira bien. Tu te trompes. Tu vas exiger toujours autre chose encore. Nous sommes en train de lire. Aujourd'hui, quand nous lisons a posteriori, on se dit, mais non. Nous, si on était à leur place, on aurait... Mais non, c'est parce qu'on lit maintenant qu'on se dit cela. À leur place, on aurait toujours eu des critiques. Mais comment... On serait dit, mais quand même, le Fils de Dieu, mais il n'a même pas de cheval. Mais le Fils de Dieu, ben, là, il faut qu'on... On n'a même pas suffisamment de quoi manger. Il y aurait toujours eu des plaintes. Jésus, un jour... Philippe lui dit, mais montre-nous le Père. Jésus lui dit, ah, Philippe, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas compris. Ça veut dire que toi aussi, tu serais à la place là. Tu aurais toujours créé des problèmes à Jésus. Tu te dis qu'aujourd'hui, Dieu doit faire ceci, doit faire cela. Mais est-ce que s'il le fait vraiment, tu vas t'attacher à lui? Le problème, c'est que si tu ne t'attaches pas à lui quand il le fera, ton jugement sera dangereux. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire au Seigneur? Ils ne l'ont pas vu, ils l'ont vu. N'ont-ils pas cru? Ils ont cru. Mais ils ont choisi quoi? Quand ils ont cru, ils ont reconnu que Jésus était vraiment celui qui prétend, celui que l'Esprit-Saint prétendait qu'il était. Mais ils ont préféré suivre la gloire des hommes. C'est ça la triste réalité. Comment toi et moi, nous pouvons nous tromper, faire suivre la gloire des hommes? C'est que nous tous, nous avons cru que ça, c'est la parole de Dieu. Mais beaucoup d'entre nous vont préférer quand même voir. Parce qu'aujourd'hui, notre thème, c'est quoi? Entrer dans cette gloire. Comment on y entre? Eh bien, Jésus nous a donné un verset capital dans Jean 11. Au verset 40, il dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Jésus nous montre le moyen d'entrer dans cette gloire. Voir, croire. Mais nous voulons transformer les choses. Nous voulons voir d'abord. Jésus dit, faut d'abord croire. Et nous estimons que nous avons cru. Pourquoi nous ne voyons pas? Voilà la question qui revient régulièrement. Mais nous avons cru, pasteur. Pourquoi nous ne voyons pas? La réponse nous est donnée dans Jean 12, 43, qu'on a déjà lu. Je vais relire parce que c'est capital ce verset-là. Les deux versets, 42-43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils avaient cru, comme toi tu as cru. Alors pourquoi tu n'entres pas dans la gloire? Parce que tu aimes la gloire des hommes. Tu n'aimes pas la gloire de Dieu. Tu veux que Dieu agisse en passant par la gloire des hommes. C'est la gloire des hommes qui t'intéresse. Le résultat. Parce que les hommes jugent par le résultat. Tu as ton entreprise. Mais quel est le résultat de l'entreprise? Déficitaire. Ah. La gloire des hommes. Ces gens-là ont cru, mais ils ont préféré la gloire des hommes. En préférant la gloire des hommes, ils se sont éloignés de la gloire de Dieu. Et leur foi n'a servi à rien. Bien-aimés, Le Seigneur est clair. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Crois. Mais maintenant, toi, tu rétorques aussi, mais j'ai cru. Où est la gloire? Eh bien, si vraiment tu crois, tu attendras. Puisque tu crois. C'est clair. Tu attendras. Lorsque nous allons dans une salle d'attente pour voir un médecin, on attend parce qu'on croit qu'il va nous recevoir. Si on ne croyait pas qu'il allait nous recevoir, eh bien, on s'en irait. Bien-aimés, les païens même ont plus de foi que nous. Quelqu'un va sur Internet, il achète un billet d'avion. Il prend juste le numéro, il prend son passeport, il va à l'aéroport pour voyager. Pour se retrouver dans un autre pays dans 4 heures de temps. Traverser l'océan. Parce qu'il croit au système qui fait payer les billets ainsi de suite. Donc il se permet d'aller avec un chiffre et son passeport. Sachant qu'à l'aéroport, on l'autorisera à monter dans l'avion. Et bien aimé, ça c'est la foi. Et tu vas, tu attends. Si nous ne vivons pas la gloire de Dieu, c'est parce que nous préférons la gloire des hommes. Nous voulons que cette gloire se manifeste à l'image de la gloire des hommes, par des félicitations, par des logiques humaines de résultats, par des logiques humaines de comparaison. Quelqu'un me dira, mais oui, mais si Dieu est Dieu, il y aura du résultat. D'ailleurs, il nous a promis telle chose. Effectivement. Mais est-ce que tu as bien observé? Est-ce que tu as bien observé? Est-ce que tu as compris comment Dieu se manifeste? Dieu avait promis aux Juifs le Messie. Est-ce que quand le Messie est venu, ils l'ont accepté? Non! Parce qu'ils attendaient un Messie qui allait renverser les Romains, qui allait chasser les Romains. La gloire est déjà venue, tu ne l'as pas reçue. Bien-aimé, c'est triste quand je prêche ça. Je suis triste. Parce que dans Jean 1, c'est écrit, la lumière est venue. Le monde ne l'a pas reçu. Cette même lumière, c'est Jésus. Jésus dit, je frappe. Quiconque entend ma voix ouvre, j'entre chez lui. Mais tu entends encore le chrétien dire, mais je ne vois pas. Et Jésus est triste. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est la même chose. Quand il est venu au milieu des Juifs. Les gens ont dit, mais où est le Messie? Mais c'est lui. Mais attends, bon, on va le faire roi comme ça, il nous libère. Ah, il ne veut pas être roi, ben ce n'est pas le Messie. Il ne veut pas accepter notre système, ce n'est pas le Messie. Parce que ces gens-là voulaient que le Messie se soumette au système des humains. Le Messie n'était pas venu pour ça. La gloire de Dieu est venue chez toi, mais telle que tu ne l'attendais pas. C'est pourquoi tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas reçu et tu es malheureux. Je parle à beaucoup de chrétiens. Dieu est fidèle. Il a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Il y a des gens, quand ils mangent une pomme, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Mais bien aimé, moi, quand je mange un fruit, je me sens bien. Pour moi, les arbres, c'est les plus grands cuisiniers au monde. Ils nous fabriquent des repas qui sont tout faits. Tu n'as pas besoin de réchauffer. Tu cueilles le fruit, tu manges. Je sens la perfection. Je suis étonné, je rends gloire à Dieu. Maintenant, quelqu'un va dire, mais moi, je ne vis pas la gloire de Dieu. Mais moi, je vis la gloire de Dieu lorsque je mange un fruit. J'ai dit, le meilleur cuisinier, ce sont les arbres. Parce que quand tu manges un fruit bien sucré, tu as l'impression qu'on ne peut rien à, tu sens que tu ne peux rien à rajouter à ça. C'est bon tel que c'est. Alors que tu peux aller dans les meilleurs des restaurants, tu auras toujours un petit commentaire à faire. Si on avait mis un tout petit peu de poivre, si on avait mis un tout petit peu de ceci, certains sont même esclaves du ketchup. Si on avait mis un tout petit peu de ketchup. Mais quand tu manges un bon melon. Demandez aux gens avec qui on était parti au Maroc. Tu manges la pastèque, donc tu veux vivre dans une pastèque, quoi, parce que c'était tellement bon, bien-aimé. les meilleurs cuisiniers, les arbres. Maintenant, Dieu, il va faire quoi? La gloire est venue, tu ne l'as pas acceptée. Parce qu'elle n'est pas venue comme tu l'attendais. Dieu ne peut pas rajouter. Il va rajouter pourquoi? Parce que ce qu'il donne, tu n'acceptes pas. Celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera dans le grand. Il sait que si tu n'acceptes pas la petite gloire qu'il donne là, quand ça va se rajouter, tu ne verras toujours pas. Jésus, le Messie, ça a été prophétisé par Siméon, par Anne. Est-ce que les gens l'ont accepté? Non. Il grandit. Il dit à Nazareth, il lit la parole d'Esaïe, qui prophétise que lui allait arriver. Il dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Est-ce que les gens ont accepté? Non. Ils ont dit, mais c'est le jeune Jésus qui était là, mais ce n'est pas lui qui va nous dire qu'aujourd'hui il est devenu Messie. D'accord. Il ressuscite les morts. Il guérit les malades. Est-ce que les gens ont accepté? Non. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Il ne fait aucun péché. Est-ce que les gens ont accepté? Non. Sauf les humbles. Les petits ont regardé, ils ont dit non. C'est lui. Nicodème est venu pendant la nuit, il a dit, Jésus, tu viens du ciel. Parce que quelqu'un ne peut pas faire tout ce que tu fais là s'il ne vient pas de Dieu. Mais quand quelqu'un est dans la gloire des hommes, la gloire de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Elle peut être là, il ne la voit pas. Je parle aux chrétiens aujourd'hui qui sont esclaves des logiques humaines, mais qui sont dans le milieu spirituel. Bien aimé, quand on dit qu'ils ont préféré la gloire des hommes, dans ce contexte qu'on vient de lire, c'était quoi? C'était de rester dans les synagogues. Les synagogues, ce n'est pas l'histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de... C'est une histoire religieuse. Et ils ont préféré rester dans les synagogues. Il y en a qui ont leur synagogue, c'est-à-dire leur conception de ce que doit être la gloire de Dieu, leur conception de ce que doit être la Bible, de ce que doit être l'action de Dieu. Et ça devient leur synagogue. Donc même quand Dieu les attire à sa vraie gloire, ils résistent. Dieu peut l'attirer dans un groupe de prière de 5 personnes, de 10 personnes. Il résiste. Lui, il veut une église de 1000 personnes. Dieu peut l'attirer auprès d'un pasteur qui n'est pas rayonnant, qui n'a rien du tout, pour qu'il vive sa gloire. Lui dit non, 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 non. Moi, j'ai vu à la télévision un tel. C'est les synagogues. Ils ont préféré la gloire des hommes. D'être bien, de dire je suis diacre dans une église de 1000 personnes. C'est la gloire des hommes. Pourquoi nous n'entrons pas dans la gloire de Dieu? Parce que nous préférons la gloire des hommes. Parce que Dieu n'a pas changé. Ce qu'il promet, il accomplit. Bien-aimé, Jésus, il est la gloire de Dieu. C'est le premier point, bien-aimé. Si tu veux entrer dans la gloire de Dieu, sache que Jésus est la gloire de Dieu. Jésus a dit un jour aux gens qui étaient autour de lui, il a dit, mais la reine de Seba, elle habitait l'Éthiopie. Elle a fait des kilomètres, des centaines de kilomètres pour aller voir qui? Salomon. Pourquoi? Pour que Salomon lui donne l'argent? Non. Pour que Salomon lui donne des armes? Non. Pour écouter la sagesse de Salomon. Il dit, or là, en parlant de lui, il y a plus que Salomon. Qu'est-ce que Jésus veut te dire? Toi qui néglige la Bible, toi qui veux voir un mort ressuscité, il te dit, mais tu n'es même pas comparable à la reine de Saba. Quoi. Elle a fait des milliers de kilomètres pour venir écouter la parole de Dieu qui sortait de Salomon. Toi, tu as la parole qui sort du Fils de Dieu. Tu veux encore autre chose. Comment Dieu te jugera? Réfléchis toi-même. Jésus dit, la reine de Saba a fait des milliers. Déjà, c'était une reine. Toi, tu n'es même pas député. C'était une reine. Elle fait des milliers de kilomètres pour écouter la sagesse de Salomon. Des paroles de Dieu qui sortaient de Salomon. Jésus dit, maintenant, là, parmi vous, en parlant de cette époque-là, parmi vous, il y a plus que Salomon. Alors Jésus dit, mais qu'est-ce qui... Vous êtes fous de ne pas venir m'écouter. Mais Jésus a parlé et sa parole a été mise dans ce qu'on appelle la Bible. Alors quand les gens se plaignent, en réalité, ils sont de loin, moins que la reine de Saba, qui avait compris où se trouvait la richesse, où se trouvait la gloire. Ça se trouvait dans la sagesse qui sortait de Salomon. Elle pouvait dépenser de beaucoup d'argent pour aller écouter Salomon. Jésus a dit à plusieurs villes, il a dit, Capernaum, tu descendras dans les séjours des morts. Parce que tout ce qui a été fait à Capernaum, j'ai parlé, j'ai prêché, j'ai fait des miracles. Si ce que j'ai fait à Capernaum avait été fait à Sidon, il y a beaucoup de gens qui se seraient convertis. Mais à cause de ça, Capernaum, tu descendras dans le séjour des morts. Et bien aimé, j'ai fait un tour là-bas, dans cette ville-là de Capernaum. Effectivement, c'est comme un cimetière. C'est resté figé. Les Juifs ont reconstruit presque toutes les villes qu'on voit dans l'Ancien Testament. Mais cette ville-là n'a pas été reconstruite. Elle est restée comme un cimetière. Ce que Jésus avait dit, ça s'est accompli. Parce que les miracles qui ont été faits là-bas, la parole qui a été prêchée là-bas, n'a pas fait que ces gens-là se convertissent et se viennent au Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes les premiers, quand Dieu fait un miracle, à faire la pub, à montrer que Dieu est avec nous, à faire des témoignages. Et puis quand les choses s'apaisent, on est encore les premiers à demander, il faut encore quelque chose pour qu'on se sente bien. Non, une fois pour toutes, Jésus est notre vérité, notre puissance, notre gloire. Et Jésus à la croix a dit, tout est accompli. Il a fini les choses. Ce n'est pas à nous de faire. Il est écrit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Quand Dieu a envoyé Gédéon a dit, je ne suis pas costaud, je suis d'une petite famille, moi-même je suis le dernier de ma famille, qu'est-ce que je vais faire? Dieu lui a dit, va avec la force que tu as, parce que c'est moi qui vais travailler. Aujourd'hui, on veut tout ramener à nous. Est-ce que je suis un grand homme de Dieu? Je suis un grand serviteur? Je suis un grand chrétien? Non, à Dieu seul la gloire. Donc, et c'est Jésus qui est notre gloire. Paul a dit une phrase, il a dit, je suis mort. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui est notre gloire. Si tu n'as pas saisi Jésus, tu vas tourner. Bien-aimés, nous, on a tourné. On a cherché le réveil en France par des jeûnes de 40 jours. On a fait toutes sortes de prières. Quand j'étais dans la région parisienne, à un moment, il y a des gens qui ont fait une conférence avec des serviteurs argentins qui ont des églises de 110 000 personnes, 50 000. Les serviteurs argentins sont venus. Conférence pour les pasteurs. Tous les pasteurs sont partis là-bas. Et se disant qu'après cette conférence, c'est le réveil en France. On est toujours là. Après la conférence, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Parce que nous refusons la gloire de Dieu. Nous préférons la gloire des hommes. Est-ce que vous pensez que des hommes réunis quelque part, c'est eux qui peuvent décider du réveil? Jésus a dit aux apôtres, attendez à Jérusalem. Une puissance viendra sur vous. Ce n'est pas un homme qui peut décider du réveil. C'est Dieu qui décide du réveil. Et c'est lui qui va susciter un homme. Gédéon était en train de faire du froment. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas toucher à la cuisine, toucher au ménage. Mais Gédéon, c'est ce qu'il était en train de faire. C'est là que Dieu l'appelle pour le servir. Les chrétiens aujourd'hui préfèrent les écoles bibliques. Il fait 3 ans là-bas. 2 ans avec un tel. Mais il est toujours sec. Bon. C'est normal parce que c'est la personne qui donne la vie, c'est Dieu. Mais Gédéon était en train de faire du froment pour que les gens mangent. L'ange de l'Éternel vient. Dieu est avec toi, vaillant guerrier. Ah, Gédéon dit, mais on m'appelle vaillant, moi qui fais le froment. Oui, parce que Dieu sait que c'est lui qui va habiter en toi. Et tu vas devenir vaillant. On veut tout ramener à nous. Ça crée des comparaisons. C'est tel serviteur qui est loin. Non, Dieu seul a l'onction. Et c'est lui qui décide à qui il va la donner. Et quand il a décidé, nous sommes dans la joie de recevoir ce qu'il fait à travers l'un d'entre nous. Mais c'est lui qui est le maître du réveil. Ne cherchons pas la gloire auprès des hommes. J'étais dans un pays d'Afrique, il y a un pasteur qui me dit, j'ai fait 2 mois pour chercher ce qu'un pasteur du Nigeria prie pour moi afin que je reçoive. Moi, j'ai dit, mais c'est malheureux. Donc, tu vas chercher la gloire auprès des hommes. Jésus a dit, vous entendrez que je suis à gauche ou à droite. N'y allez pas. Là où vous êtes, je suis. Dieu est omniprésent. On le dit bien dans les chants. Omniprésent, omnipotent, tout ça. Mais quand il faut l'appliquer, on ne l'applique pas. Il est omniprésent. Donc, tu l'invoques là où tu es, il se manifeste. Et si lui, il veut que tu ailles quelque part pour le rencontrer, il te le dira. Mais ne tombe pas dans le système des humains. Nous cherchons la gloire des humains, alors que c'est Jésus-Christ qui est la gloire de Dieu. Jean nous le dit dans Jean chapitre 1er. Il a dit, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique. C'est la gloire de Dieu, c'est Jésus. Quand il est venu, Jésus a dit à Philippe, mais tu cherches Dieu, mais depuis longtemps tu es avec moi. Qui m'a vu, a vu le Père. Tu n'as toujours pas compris. Beaucoup cherchent, mais Jésus dit, mais depuis longtemps, tu es avec moi. J'entends l'autre répondre, oui, mais depuis longtemps, je suis avec toi, mais il ne se passe rien. Mais parce que les yeux sont fermés. C'est pourquoi tu ne vois pas ce qui se passe. Vous croyez que les gens qui ont réclamé à Jésus un miracle, ils n'avaient pas appris qu'il avait ressuscité les morts, il avait fait marcher les paralytiques, il avait fait recouvrir la vue aux aveugles. Ils le savaient. Mais ça n'avait aucun impact. Parce que leur soif égoïste, leur soif liée à la gloire des humains n'était pas assouvie. Ces gens-là auraient bien apprécié Jésus si Jésus les avait élevés. Si Jésus leur avait donné quelque chose qui les rend, eux, importants, ils auraient dit, je vois la gloire de Dieu. Mais tant que Jésus ne les avait pas élevés, pour eux, ils ne voyaient pas la gloire de Dieu. Les gens réclament des choses, en réalité, réclament des choses chez eux. La gloire de Dieu se fait tout autour, se manifeste, mais eux, ils veulent quelque chose qui finira par les élever, eux. C'est ainsi qu'ils pourront reconnaître qu'il y a la gloire de Dieu. Non, bien-aimé, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, tu verras. Comme Bartimée qui a dit, « Seigneur, je veux voir. » Il voulait voir Dieu. Les gens disent qu'il voulait voir plus pour voir le Messie que pour voir lui-même. C'est ça, il voulait voir la gloire de Dieu. C'est Jésus la gloire de Dieu. Jésus, c'est le terminus. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut suivre Jésus. Il faut le garder. Il dit dans Jean 15, « Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas de fruits. » Ne suis pas les modes. Ne cherche pas la gloire des hommes. Cherche Dieu. Dieu t'amènera parfois là où tout le monde fuit. C'est ça la réalité, bien-aimé. La gloire de Dieu, puisque Jésus c'est la parole de Dieu, c'est la foi en la parole de Dieu. Jésus physiquement n'est plus visible à nos yeux. Mais il est là présent par son esprit. Mais il nous a laissé sa parole qui le représente entièrement. Par la parole de Dieu, nous pouvons expérimenter le Seigneur chaque jour. Et quand nous lisons la parole, nous devons avoir foi que ce qu'elle dit est vrai. Et en avançant, en ayant foi en ce qui est écrit, nous allons vivre la gloire de Dieu. C'est important, bien-aimé, la parole. Nous nous souvenons de cet homme, dans Matthieu, au chapitre 16. Non, dans Luc au chapitre 16. Qui a réclamé le riche là, qui était parti en enfer. Il a dit, Abraham, père Abraham, je ne veux pas que mes frères se retrouvent aussi en enfer. Est-ce que tu ne peux pas envoyer Lazare? Lazare était au paradis. Tu ne peux pas envoyer Lazare sortir du séjour de mort du bon côté du paradis pour aller prêcher à mes frères. Lorsqu'ils voient que c'est quelqu'un de mort qui ressuscite, ils vont croire qu'il y a un paradis et un enfer vraiment. Et beaucoup de gens le disent. Ils disent, mais qui est mort, qui est revenu pour qu'on sache s'il y a un paradis et un enfer? Bien-aimé, la Bible le dit. Et ton cœur le sait. Même si ta bouche conteste, ton cœur sait qu'il y a un enfer et un paradis. Mais c'est ta bouche qui conteste, mais ton cœur le sait. Et cet homme riche a dit à Abraham, envoie Lazare. Quand il va ressusciter, mes frères vont croire. Abraham a dit à l'homme riche, tes frères sur la terre, ils ont Moïse et les prophètes. Mais Moïse était déjà bien mort depuis longtemps. Les prophètes morts depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ils ont les écritures de Moïse et les prophètes. Qui lisent ces écritures et qui croient. Le riche a dit, mais non! S'il voit quelqu'un ressuscité d'entre les morts, il croirait plus que s'il lisent les écritures. Quelle a été la réponse d'Abraham? S'il ne croit pas ce qui est écrit, il ne croirait même pas. Il ne croirait pas même quand quelqu'un ressusciterait d'entre les morts. Et nous, on dit au Seigneur, si nous vivions telle chose, on croirait vraiment bien. Et le Seigneur dit, si tu ne crois pas ce qui est écrit, même quand tu vivras la chose, tu ne croirais quand même pas. Bien-aimé, la foi en la parole. Imaginez que 8 jours après, les apôtres se soient dit, on nous a demandé d'attendre. Ça fait une semaine, le Seigneur ne se manifeste pas. Écoutez, rentrons chacun chez soi. Est-ce qu'il y aurait eu cette Pentecôte-là sur eux? Non. Ils se sont dit, le Seigneur a dit, d'attendre, on attend. Ils ont cru en ce que le Seigneur leur a dit. La puissance n'est pas venue parce qu'ils ont jeûné 1000 jours. La puissance est descendue parce qu'ils se sont soumis au Seigneur. Ils ont cru en la parole. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et j'entends toujours la réplique, mais oui, mais on a cru. Où sont les miracles? Ben moi je te dis, continue à croire et tu verras la gloire de Dieu. La foi, c'est aussi dans la durée. La foi, ce n'est pas le café instantané. Dieu construit des choses. Dieu n'est pas là, ce n'est pas un magicien pour amuser les gens. Il construit. Il ne veut pas faire des miracles pour amuser. Il ne veut pas transformer la terre en ciel. Le ciel, c'est le ciel. La terre, c'est la terre. Donc, chaque jour sur la terre, on aura certaines difficultés. On aura à cuisiner. Même Jésus, on cuisinait pour qu'il mange. Jésus ne mangeait pas la manne. Il mangeait ce qui était préparé. Les gens allaient faire des achats. Est-ce que vous avez vu Jésus dire à son père, « Bon, comme moi je suis fils de Dieu, que les anges me donnent à manger chaque jour. » Pourtant, il y a des anges qui ont nourri des gens dans l'Ancien Testament. Jésus pouvait commander ça aussi. Il y a eu la manne dans l'Ancien Testament, la nourriture qui venait du ciel. Jésus pouvait exiger ça. Mais non, Jésus vivait comme tout le monde. Il fallait qu'on cuisine pour qu'il mange. Il était fatigué, il avait soif. Il a demandé à cette femme-là de l'eau. Il n'a pas dit, Dieu, bon, je suis fils de Dieu. Un ange descend et me donne de l'eau. Non, il était normal. Et c'est ce qui nous gêne. Nous ne voulons pas être normal. Nous voulons transformer la terre en ciel. Non, Dieu va faire des miracles comme des signes, comme des messages. Mais non pas pour changer la terre en un lieu où il y a tout le temps des miracles. Il ne veut pas amuser les gens. Il veut leur parler à travers les miracles. C'est le message qui est dans les miracles. C'est pourquoi la Bible appelle les miracles les signes. dans beaucoup de versions où vous voyez miracle, à l'original, c'est les signes. C'est un enseignement, un miracle. Ce n'est pas là pour que les choses changent. Les gens disent, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses. Nous devons vivre dans la gloire. Il faut que ça, il faut que ceci. On a dit, on sera le premier et non les derniers. Mais ils en font une application mauvaise. Vous savez, il y a même un chrétien qui a dit, la traduction, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est même pas, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Voilà la vraie signification. Je ne manque de rien. Pour beaucoup, je ne manquerai de rien. Donc, si j'ai besoin d'une voiture, il va me donner la voiture. Si j'ai besoin de... Non. Dieu te suffit. C'est ce que ça veut dire. Il te suffit. Ce dont tu as besoin, réellement, il te le donnera. Mais ce dont tu n'as pas besoin réellement, mais que ton intelligence croit avoir besoin, il ne te donnera pas. Il te donne ce dont tu as besoin réellement. Et en surplus, dans certains moments. Mais Dieu ne va pas transformer la terre en paradis. La terre sera détruite un jour. Donc dans la terre, sur la terre, nous aurons à marcher comme tout le monde. Nous aurons à transpirer comme tout le monde, même si nous sommes enfants de Dieu. La mort continue à nous frapper parce que ce corps-là et cette terre doivent être détruits pour qu'il y ait une résurrection. Les miracles sont des signes, des messages. Mais ceux qui soutiennent les miracles, c'est la parole. Hébreux 1 nous le dit, nous croyons que tout ce qui existe, tout ce qui se fait à partir de la parole. Hébreux 1, 3 le dit. Tout est soutenu par la parole. Quand il y a un miracle, c'est la parole qui produit le miracle. Mais alors si toi tu n'as pas foi en la parole, comment comptes-tu vivre les miracles? Par la magie ou bien par des systèmes des humains? Dieu veut qu'on prie, qu'on jeûne, mais pas pour chercher la puissance, pour chercher l'intimité et se soumettre à lui, pour s'humilier devant lui. Et lui nous donnera la puissance comme il entend. Nous jeûnons, nous prions pour nous approcher de lui, pour nous humilier. Pour lui demander certaines choses qui nous tiennent à cœur. Mais ce n'est pas un fétiche, le jeûne et la prière. Il faut avoir foi en la parole de Dieu, bien-aimé. C'est ça, Jésus, la parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis, bien-aimé, il faut prier. C'est Dieu qui agit. Alors il faut être en contact avec lui. Et Paul va jusqu'à dire, priez sans cesse. Il faut s'humilier devant Dieu. Parce que Dieu, quand il fait des exploits, si tu n'es pas humble vis-à-vis de lui, tu vas croire que c'est toi qui fais. Alors Dieu veut qu'on prie, afin que nous reconnaissions que c'est lui qui fait. Quand nous verrons les exploits, nous serons dans l'état d'accueillir ces exploits. Ce n'est pas la prière magique. Où on fait comme des incantations, on parle, et puis on dit, j'ai prié 2 heures, j'ai prié 1 heure. Non, c'est la prière communion, où on parle à Dieu, où on croit en lui, on discute avec lui, on reçoit ses projets, on reçoit sa volonté. Et quand on reçoit sa volonté, on est sûr de réussir. Ce n'est pas la prière où on vient lui donner quelque chose et on exige autre chose en échange. Non, ce n'est pas la prière biblique. La prière biblique, c'est s'humilier devant Dieu, être dans sa présence, parler avec lui, l'écouter, méditer avec lui, le supplier. Parce que notre cœur est rempli d'amour pour les gens et on supplie Dieu de les sauver. Nous humilier, c'est ça la prière. Et quand nous faisons cela, Dieu manifeste sa gloire. Maintenant, je vais nous apporter un élément très important. Ce n'est pas ce que Dieu fait après la prière qui est sa gloire. C'est la manifestation de sa gloire. C'est le fait même de prier qui est extraordinaire. Ce n'est pas ce que Dieu donne après la prière. C'est la prière qui est extraordinaire. Parce que prier, c'est entrer dans sa présence, s'humilier devant lui. Mais pourtant, après la prière, Dieu va donner une voiture. Mais qu'est-ce qu'une voiture devant Dieu lui-même? Après la prière, Dieu va guérir un malade. Mais qu'est-ce qu'est la guérison devant Dieu lui-même? Qu'est-ce qu'est la guérison? Dieu peut susciter une sorte d'entrain dans nos vies. On saute, on le loue, on se sacrifie. Mais qu'est-ce que tout ça devant Dieu lui-même? Ce n'est pas ce que produit la prière qui est important, c'est la prière elle-même. C'est pourquoi beaucoup ont arrêté de prier. Pourquoi? Parce qu'ils prient, rien ne se produit. Et donc, ils ont lié prière et productivité. Mais puisqu'il n'y a pas productivité, bon, la prière n'a pas servi. Non, il faut prier parce que Dieu est important. Tu es là, bien-aimé. Qu'on apprenne que, Maradona ou bien Pelé est à Saint-Sever, les gens qui vont affluer là, est-ce qu'ils vont affluer parce que Pelé va leur donner quelque chose? Est-ce qu'ils vont affluer puisque Maradona va leur donner quelque chose? Non, ils vont affluer parce qu'être près de lui, c'est extraordinaire. Tiens, Maradona, tiens! Alors, la prière est importante parce que c'est Dieu qui est important. Ce n'est pas parce que pour ce que ça peut donner. Si on change de mentalité, on vivra la gloire de Dieu. Parce qu'on va prier beaucoup, parce qu'on est dans la présence du roi. C'est bien de l'honorer. C'est bien de lui parler. Parce qu'auprès de lui, l'inquiétude disparaît. Parce qu'il nous rassure, il nous fortifie, il nous parle, il nous promet. Donc, nous allons le chercher pour recevoir la vie et non pour recevoir des choses. Pour recevoir sa vie et non pas pour recevoir des exaucements. C'est ça la différence. Et c'est ce qui fait que beaucoup ne sont pas exaucés. Quand Jésus a prié dans Jean 11, il a dit, Père, je te prie, mais je ne te prie pas pour que tu m'exauces. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais je te prie parce que je veux que les gens voient que c'est toi qui agis. Parce que si Jésus faisait le miracle tout seul, on va dire, c'est Jésus. Lui, il veut qu'on honore son papa à travers ce qu'il fait. C'est pourquoi il prie. Les gens disent, mais pourquoi tu pries? Je prie parce que le papa doit être honoré. Après tout ce qui va se passer, les gens sauront qu'il avait prié. Et c'est son père qui a fait. Bien-aimé, les raisons pour lesquelles nous prions ne sont pas bonnes. Dieu ne refuse pas qu'on demande. Mais il veut que, comme c'est écrit dans Philippiens 4, 6, 7, nous comprenons que la prière elle-même, c'est la solution. Ce n'est pas après ce qui est donné. Dans Philippiens 4, 6, 7, c'est écrit, quand tu pries, tu vas recevoir la paix. Cette paix dépasse l'intelligence. Cette paix en elle-même, c'est l'assurance que c'est fini, ton problème est réglé. Cette paix est plus importante que ce qu'on peut te donner. Parce que beaucoup de gens ont ce que tu demandes, ils n'ont pas la paix. Beaucoup de gens cherchent ce que toi tu demandes à la prière, mais ils n'ont pas la paix. Mais toi tu demandes, Dieu te rassure et tu sors de là en forme. Tu sais que tu ne vois pas, mais ça y est déjà là. Tu sais que Dieu est avec toi. Nous devons prier, bien-aimés. Prier. Parce que Dieu est grand, parce que Dieu est bon, parce qu'il est important. Parce que c'est bien d'être avec le roi. Qui peut refuser cela? Nous devons prier. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église comme ça. On vient au culte. On se dit, bon, après le culte, j'irai telle part. Après le culte, je vais manger telle chose. Après le culte, on vient au culte avec beaucoup déjà de programmes établis pour l'après. Est-ce qu'on vient vraiment chercher Dieu? Peut-être qu'on va venir là, c'est le retour de Jésus. Donc, tu viens au culte, tu dois d'abord t'intéresser à ce que Dieu va faire avec toi ici. C'est ça qui t'intéressera. Tu dis, je vais rencontrer Dieu. Est-ce que je vais toucher les cheveux ou bien-aimé? Faisons la comparaison avec le monde. Des fois, le monde nous enseigne qu'on dise à quelqu'un qu'on va te faire une faveur spéciale. On va te faire rencontrer ton acteur préféré, ton joueur préféré. tous ces gens-là vont faire des projets par rapport à ces moments-là. Ils ne vont pas faire des projets par rapport à après. Je vais demander qu'il signe telle chose, qu'il me dessine telle chose. Je vais prendre une photo avec lui. Je vais faire. Donc, ils s'imaginent le moment, comment ça sera. Mais nous, on vient. Tel programme après, tel programme après. Et tu es au culte. Tu penses déjà au poulet qui est en train de chauffer au four là-bas. Tu es au culte. Tu penses déjà au train que tu vas prendre. Tu es au culte. Bien-aimé, et si. Et ce qui fait que, quand tu sens que les choses s'allongent, tu es devant la montre, Dieu dit, mais qu'est-ce que tu es venu chercher? Voilà. Est-ce que tu as compris à qui tu avais affaire? Je ne suis pas en train de prêcher ce que certains font, le désordre, ils disent, il n'y a pas, on fait comme on veut. Non! Et puis, il n'y a pas d'heure, on ne tient pas compte des enfants, tout ceci, cela. Non, je suis en train de prêcher la sagesse du Seigneur. C'est que toi, quand tu viens, tu dois venir pour rencontrer Dieu. Maintenant, ceux qui dirigent doivent penser à ordonner les choses. Mais nous tous, nous sommes soumis à Dieu. Et toi, plus que les gens qui dirigent, tu ne dois même pas t'intéresser autant. Tu ne dois pas t'intéresser, à l'après-culte. Intéresse-toi au culte. Tu veux prier. Ne t'intéresse pas autant que tu vas faire dans la prière. Fais des prières sérieuses. Donc quand tu dis Dieu, tu es tout puissant. Tu rends compte que tu l'as dit très vite, tu reviens. Dieu, tu es tout puissant. Alors, quand tu commences à voir un peu, c'est quoi être tout puissant? Tu vois, c'est quoi être tout puissant? Tu dis, je suis d'accord, tu es vraiment ça. Tu continues. Il faut faire des prières sérieuses. Certains, avant de commencer la prière, ils s'inquiètent déjà du temps qu'ils vont faire. Est-ce que je pourrais tenir 10 minutes? Est-ce que je pourrais tenir une heure? Au lieu de s'intéresser à ce qu'ils vont dire dans la prière, au lieu d'être sérieux dans la prière, Dieu veut qu'on soit sérieux dans ce qu'on dit. Quand on dit, Dieu, délivre-moi. Tu le dis de tout ton cœur. Quand tu dis, Seigneur, je veux que la Normandie soit sauvée, tu le dis de tout ton cœur. Et beaucoup disent, Seigneur, que la France soit sauvée. Mais dans sa tête, il se voit mourir dans une église de 10 personnes, 10 chrétiens. Donc, mais il le dit parce qu'un chrétien doit prier. Seigneur, la France doit être sauvée. Mais dans sa tête, il dit, mais le maire, il est trop méchant, il ne peut pas se convertir. Mais... quand tu dis « Seigneur, la France doit être sauvée », ce n'est pas ton problème, la méchanceté des humains. Il y a des gens qui disent « Mais lui, il est mauvais, il est méchant, il ne veut pas ». Non. Quand tu veux que toute ta famille soit sauvée, tu ne fais pas de favoritisme. Tu considères que même le plus méchant peut être sauvé. Sauf si Dieu te dit que tel ne peut plus être sauvé. Si Dieu ne te l'a pas dit, ce n'est pas tes raisonnements qui doivent te le dire. Ça, c'est la gloire des hommes. Tu es limité par les raisonnements humains. Bien-aimés, il faut prier, mais des prières sérieuses. Pas des prières religieuses. Des prières pour compléter, remplir le temps. Non. Ce que tu dis, tu crois ce que tu dis. Et quand tu es dans la prière, tu t'attends à Dieu. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas des incantations. Tu t'attends à Dieu. Tu parles sérieusement. Et tu t'attends à lui. Et bien aimé, quand tu vis comme cela, tu vivras la gloire de Dieu effectivement. C'est important, bien aimé. Nous devons entrer dans la gloire de Dieu parce que c'est quelque chose qui nous est promis gratuitement. Et si nous venons à Dieu avec des arrière-pensées, nous ne pourrons pas vivre la gloire de Dieu. Nous devons venir à Dieu sans arrière-pensées. Penser tout recevoir de lui. Nous ne pouvons pas venir déjà à Dieu en se disant, bon, une église doit être comme ci, un prédicateur doit faire ceci. Non, tu ne peux pas venir à Dieu avec la pensée que, bon, dans 5 minutes, je vais faire ceci. Non, c'est Dieu qui va te servir. C'est Dieu qui va s'occuper de toi. Nous devons nous livrer entre ses mains. C'est ce à quoi sert la prière. La prière sert à se livrer. On ne peut pas dire, bon, je vais aller prier, mais en même temps, je suis humain, je dois penser à telle chose. Non. Tu dis, moi, je vais aller prier. C'est Dieu qui me fera penser que je suis humain, que je dois faire telle chose. Parce que Dieu peut aussi se passer du fait que tu es humain et faire autrement. Bien-aimé. Quand on vient à Dieu, on vient sans arrière-pensée. On ne peut pas venir à Dieu, on le limite déjà. On dit, mais oui, je vais aller prier, mais je suis un homme, je dois penser à laisser telle chose, à faire. Non, je vais aller prier. Et lui, Dieu, il sait ce qu'il va faire. Et c'est Dieu qui te fera penser. Quand les apôtres, les gens manquaient de quoi manger, ils ont commis l'erreur d'aller voir Jésus pour lui dire, renvoie les gens. Jésus a dit, comment renvoyer les gens? Oui, mais comment on va les nourrir? Il fallait venir demander, Seigneur Jésus, comment on va faire? Et ils sont venus voir Jésus, renvoie-les. Il n'y a pas de quoi manger. C'est ainsi qu'on raisonne. On vient prier. Mais en même temps, on dit à Dieu, je viens te prier, mais tu dois faire ceci, cela. Mais Dieu dit, bon, donc puisque tu connais la solution, pratique toi-même la solution. Il y en a qui disent à Dieu, je viens te prier, mais je dois réussir aux examens cette année. Oh. Mais puisque toi, tu sais déjà comment faire, pourquoi tu viens encore prier? Si tu viens prier, attends-toi à Dieu. Il peut te dire aussi que cette année, tu reprends. Voilà. Nous devons avoir des désirs, mais nous attendre au Seigneur. Les apôtres devaient venir voir Jésus et dire, mais Jésus, on a un problème. Il y a des gens à nourrir. On ne sait pas quoi faire. Tu viens voir le Seigneur. Seigneur, j'ai un problème. J'aimerais bien réussir, mais il y a des difficultés. Alors le Seigneur te dit, ben, je te donne la réussite. Il te dit, non, je veux telle chose. Mais ben, nous, on ne vient pas comme ça. On dit, Seigneur, il est écrit, si tu crois, tu auras. Bon, moi je crois, alors tu dois me donner ça. Voilà. Donc tu as bloqué les choses et le Seigneur n'est plus libre. Bien-aimés, nous allons clôturer là. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais ne commettons pas l'erreur de choisir la gloire des humains. Choisissons la gloire de Dieu. Et Dieu a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais tout ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et te mènera où tu ne voudras pas. Dieu a dit dans Ésaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Alors, quelqu'un qui cherche la gloire des hommes s'éloignera toujours de la gloire de Dieu. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas comme les pensées des humains. C'est ça le problème. Quels que soient les humains, les pensées de Dieu sont à Dieu. Revenons bien-aimés à Jésus. C'est lui la source de la gloire. Revenons à lui. Même il y a des gens comme David qui avaient compris ça. David a dit dans le psaume 3 au verset 4, « Oh Seigneur, tu es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête, c'est toi ma gloire. Ce n'est pas les miracles que tu peux faire, ce n'est pas les armées que tu peux me donner, c'est toi Seigneur qui es ma gloire. » Et il a dit dans le psaume 4, « Je m'endors en paix » au verset 9, « parce que le Seigneur s'occupe de me protéger. » Pourtant, il était roi. Il pouvait dire, « Je m'endors en paix parce qu'il y a des gardes du corps qui sont autour de moi. » Non, « Je m'endors en paix parce que Dieu s'occupe de moi. » Dès que tu t'appuies sur toi, sur les humains, sur tout ce que donnent les humains, c'est la gloire des humains. Félicitations des humains, l'argent des humains, le pouvoir des humains, c'est la gloire des humains. Ça ne sert à rien. C'est la gloire de Dieu qui compte. Même si on te donnait 10 millions aujourd'hui, ces 10 millions-là, tu les gères comme étant des 10 millions à Dieu. Toi, ta richesse vient du ciel. Ça dépend du ciel, ça ne dépend pas des 10 millions. Restons distants par rapport à tout ce qui provient des humains. Gérons-les, c'est tout. Mais nous, nos sources sont au ciel. Moi, je me suis toujours posé la question, comment des gens comme David, des gens de l'Ancien Testament, sont plus sages que des chrétiens qui ont connu Jésus-Christ? David, dans un des psaumes, c'est écrit, « Nos sources sont auprès de toi, Seigneur. » Pourtant, c'est des gens qui avaient des armées, qui avaient de l'argent en grande quantité, mais ils disent, nos sources sont auprès de toi. Et nous nous sommes accrochés à ce qui est lié aux humains. Comment la gloire peut se manifester? Répentons-nous, bien-aimés, et entrons dans le système de Dieu. Le juste vivra par la foi. Croyons en ce qui est écrit et prions avec persévérance. Nous verrons la gloire de Dieu. Seigneur, merci de nous aider. Nous te demandons pardon parce que nous avons cherché la gloire des humains, les félicitations des humains, l'argent des humains, les titres que donnent les humains, les sourires que donnent les humains. Nous avons cherché à être fortifiés en fonction des logiques humaines, Seigneur. Nous te demandons pardon, car ce faisant, nous nous sommes éloignés de ta gloire. Or, toi, tu ne cherches que des vases simples. Tu cherches des vases d'argile, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile, des vases faibles, mais qui peuvent contenir ta gloire par leur foi et l'humilité, Seigneur. Tu ne cherches pas des costauds. Tu cherches des faibles, mais qui croiront en toi et qui seront soumis à toi, Seigneur. Ô Éternel, nous nous reconnaissons que nous sommes faibles, mais nous croyons que tu es fort. Il est écrit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. David dit, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Ô Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que nous avons cherché notre force dans notre passé. Parfois, on a même hésité de confesser ton nom parce qu'on se sentait tellement faible. Alors que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Jésus-Christ. Oh Seigneur. Bien-aimé, il y a un passage très très important que je n'ai pas lu. C'est Paul qui parle, mais il faut que je le lise. De Corinthiens 4, au chapitre 3, au verset 3. De Corinthiens 4. Paul dit quelque chose de très important dans ces quatre versets. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais qui sont ceux qui périssent? Ce sont les incrédules. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce que dit Paul? Il dit, si les gens ne voient pas la gloire de Dieu, parce que c'est le diable qui les a aveuglés. Ils ont préféré le système de la gloire humaine. C'est pourquoi ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Il dit, le diable les a aveuglés. Ils ne peuvent pas voir la gloire qui est en Jésus. Alors ils disent, on veut ceci, on veut cela. En réalité, ils sont aveuglés. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Paul dit, ce n'est pas nous-mêmes. Parfois, tu te sens faible, tu dis, mais pourquoi parler de Jésus? Moi-même, je suis faible. Mais tu ne prêches pas toi-même. Tu prêches le Fils de Dieu, Jésus. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est Jésus la gloire de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous, bien-aimés. Nous portons le trésor Jésus dans des vases de terre. Tu as un trésor, mais tu es un vase de terre. Et ce vase de terre peut avoir faim, peut avoir un compte bancaire zéro, mais il a un trésor. Oh, bien-aimé, nous ratons les miracles parce que nous n'avons pas accepté la parole. C'est ça le problème. Nous voulons être forts pour croire. Et le Seigneur dit, nous portons ce trésor dans des vases d'argile afin que cette grande puissance que nous avons soit attribuée à Dieu seul. À Dieu seul. Un vrai chrétien, s'il ne se laisse plus distraire par le diable, il va voir les miracles du Seigneur. Je ne veux pas parler de moi. Mais bien aimé, je vois les miracles de Dieu chaque jour. Il y a des moments, on est ensemble en train de prier, on est plusieurs dans la chorale, et je reçois que c'est telle personne, si je demande à quelqu'un de prier, sans dire le nom, mais c'est telle personne qui priera. J'ai dit, Dieu là, je vais voir pour croire. Bien aimé, j'ai dit la même phrase, si quelqu'un est inspiré de prier, qu'il prie, et c'est la personne qui prie. Bien-aimé, ce n'est pas spectaculaire. Mais celui qui est humble voit la gloire de Dieu. Nous voulons le spectacle. Dieu veut nous manifester sa gloire. C'est ça, bien-aimé. Cherchons la gloire de Dieu et non pas la gloire des humains. Ce qui vient pour frapper les hommes. Seigneur, tu es notre gloire. Et nous le croyons, nous voulons nous attacher à toi. Même si on va nous dire, Seigneur, que nous ne sommes pas puissants, mais nous ne prêchons pas nous-mêmes. Même si on va nous dire que nous ne sommes pas nombreux, ce n'est pas le nombre qui produit la victoire. On a vu des gens comme Daniel qui ont vaincu dans la fosse aux lions. Nous avons vu Esther qui était toute seule. On voulait éliminer son peuple. Elle a jeûné et prié avec les autres. Il y a eu la victoire. Même si les gens vont dire nous ne sommes pas riches, mais nous, nous savons que nous sommes hyper riches. Parce que nos sources se trouvent en toi, Seigneur. Aide-nous à nous humilier et à suivre ton système à toi. À nous adapter à la façon que toi tu agis. Et tu nous l'as montré par la vie de ton fils Jésus, qui a été un homme simple, mais en qui il y avait toute la divinité. Ô Seigneur, ô Seigneur.